Christian Marletta, cet homme a été condamné pour avoir assassiné en 1982 une fillette de 12 ans qui s'appelait Christelle Bancourt. Christelle Bancourt dont il était l'éducateur dans un foyer de Marseille. Quelques années plus tôt, il aurait sans doute été condamné à mort et exécuté, car les circonstances du crime sont terribles. La fillette a été violée, étranglée et son petit corps découpé en morceaux, des morceaux dispersés dans des sacs poubelles. Oui, dans les années 70, cet homme aurait sans doute été guillotiné. Mais en 1982, la peine de mort vient d'être abolie. Alors Christian Marletta est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et ça tombe bien, parce que 25 ans plus tard, certains protagonistes de l'affaire, et pas des moindres, croient qu'il est innocent et espèrent une révision.
Tout commence le 10 juin 82, à Marseille, un peu après 18h, dans un foyer pour enfants du 10e arrondissement, baptisé Bois Fleuri. Christelle Bancourt et sa sœur jumelle Chantal vivent dans ce foyer depuis 2 ans. Elles ont toutes les deux 12 ans. Christelle vient de rentrer de l'école. Il est environ 18h20. Son éducatrice lui dit de se dépêcher car elle a rendez-vous chez le dentiste à 6h30. Sa sœur Chantal veut l'accompagner, mais l'éducatrice refuse et Christelle part toute seule. Le cabinet dentaire n'est pas loin, 400 mètres à peine du foyer. Quelques minutes à pied. Mais à 20h, Christelle n'est toujours pas rentrée. Au foyer, on s'inquiète, d'autant que vérification faite, elle n'est jamais allée chez le dentiste. Son éducatrice fait le tour du quartier, en vain. À 22h10, les responsables du foyer alertent la police.
Les disparitions d'enfants, si on ne les retrouve pas dans les 24 heures, c'est vite problématique. Là, le point particulier, c'est qu'il s'agit d'une très jeune enfant, puisqu'elle a 12 ans, qu'elle est décrite comme quelqu'un de plutôt timide et tout à fait improbable dans une fugue volontaire, j'allais dire, hein, dans une fugue spontanée. Et enfin, qu'elle n'avait aucune raison particulière de s'éloigner du foyer le jour où elle a disparu.
Des policiers patrouillent pendant la nuit autour du foyer, mais rien. Pas de traces de Christelle. Le lendemain matin, toujours rien. Ça fait 15 heures que Christelle a disparu. Les policiers de la brigade des mineurs sont de plus en plus inquiets.
Chantal Bancourt, vous êtes la sœur jumelle de Christelle. Pourquoi est-ce que vous étiez en foyer toutes les deux ?
Pourquoi on était en foyer ? Parce que notre papa, il est décédé, on avait à peine 8 ans et demi. Et comme on était 5 enfants, donc ça faisait trop pour ma maman, alors elle nous a placés toutes les deux. On a compris qu'on était abandonnés toutes les deux et je lui ai dit que je serais toujours là pour elle et vice-versa, quoi.
Ben, ça veut dire que vous entendiez vachement bien.
Ah oui.
Très soudé.
Très soudé, oui.
Comment est-ce que vous apprenez sa disparition ? On vous le dit, vous le découvrez par vous-même ?
Non, je le découvre par moi-même, puisque tous les soirs, on doit se dire au revoir. Il n'y a pas une seule soirée où on ne se dit pas bonne nuit. Et ce soir-là, elle n'était pas rentrée. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
Vous vous demandez où elle peut être à ce moment-là ? Vous avez une piste ? Vous avez...
Non, je me demande si elle est bien rentrée du dentiste, comment ça s'est passé. Et finalement, c'est là que, en descendant les marches des escaliers, j'entends une conversation louche et je comprends qu'elle n'est toujours pas rentrée.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette conversation ? C'est une conversation entre qui et qui ?
Je pense que ça doit être la police et la directrice. Et j'entends qu'elle n'était pas rentrée, qu'elle avait rendez-vous à telle heure. Ils ont cherché de partout. Et là, j'ai posé des questions et on m'a dit « Ça ne te regarde pas, remonte te coucher. »
Est-ce qu'elle aurait pu s'enfuir, peut-être, pour rentrer chez votre maman toute seule ?
Non. Elle était trop peureuse, trop craintive. Non, on ne serait pas parti.
Les policiers, eux aussi, ont la quasi-certitude que Christelle n'a pas fugué. Restent deux hypothèses. L'accident ou l'enlèvement.
On lance le dispositif habituel de recherche par cercle de plus en plus éloigné de la résidence, les voisins, les rues, les autobus, les hôpitaux. Enfin, on décline classiquement les méthodes d'investigation.
On fait appel à des chiens policiers pour essayer de retrouver. On sollicite également les fonctionnaires de police en tenue, je dirais, donc les gardiens de la paix. Et nous essayons de partir un peu dans les sens, dans les endroits où elle aurait pu se rendre.
On fouille d'abord les quartiers alentours, Saint-Tron, Pont-de-Vivaux, Saint-Loup, Sainte-Marguerite. Et puis on mobilise des CRS pour ratisser les collines environnantes. Les policiers fouillent les rives de l'Uvonne, une petite rivière qui traverse Marseille. Christelle est peut-être tombée à l'eau ou dans un trou. Ils explorent aussi les galeries des carrières de pierre proches de Boisfleury. Mais rien. Pas de traces de Christelle.
Nous sommes prêts à faire du 24 sur 24 pour essayer de retrouver cet enfant, parce que déjà dans le sud, nous sommes très famille. Et en plus, je vous dis, c'est une mineure, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et donc, on ne peut pas laisser ça comme ça.
Deux avis sont publiés dans la presse avec une description de la petite fille. Menue, les yeux verts, des taches de rousseur et les cheveux châtain clair coupés court. Vêtue d'un survêtement bleu et de baskets blanches. Les journaux locaux suivent de très près ce qu'ils appellent l'affaire de la petite Christelle.
On peut dire quasiment que toute la ville en parle. Moi, je sais très bien que je rencontrais des gens. La première question, c'était alors la petite.
Marseille est une ville composée de plusieurs vagues d'immigration. Des Italiens, des Espagnols, des Algériens, des Marocains, des gens qui sont très attachés à la famille et aux enfants. Toucher à un enfant à Marseille, c'est sacré. Vous voyez, c'est ce qui crée cette sensibilité particulière.
On avait presque l'impression que les gens vous demandaient comment on peut aider pour retrouver cette gamine, surtout qu'elle avait une belle bouille, quoi. Surtout qu'elle avait les gens se prenaient à l'enquête, quoi.
Les appels à témoins n'ont rien donné. Et les policiers sont désemparés.
Christelle a disparu depuis 5 jours. Et rien, aucune piste. Les policiers ont vérifié soigneusement les emplois du temps du dentiste, des gens de l'école, bien sûr des personnes qui travaillent au foyer Boisfleury, les éducateurs, les hommes de ménage, les employés de l'administration. Rien de louche. Et c'est là qu'on se met à leur parler d'un ancien éducateur, un certain Marletta.
Et c'est là, pour la première fois, qu'on nous parle de Christian Marletta comme un ancien éducateur du foyer Boisfleury qui était passé ce soir-là rechercher le concours d'un pensionnaire pour l'aider à déménager.
Effectivement, des éducateurs se souviennent avoir vu Christian Marletta au Boisfleury le jour de la disparition de Christelle. Il serait passé vers 17h45 et reparti en moto à 18h30. C'est-à-dire 10 minutes après le départ de Christelle chez le dentiste. Christian Marletta est immédiatement convoqué à la police judiciaire.
Puisqu'il avait été vu au foyer dans le créneau horaire qui nous intéressait, il était normal qu'on le convoque. On lui pose les questions qui viennent naturellement de l'interrogatoire, où, à quelle heure, etc. Et on s'aperçoit que dans ces explications, il y a un petit flottement au niveau du groupe horaire qui était quand même déterminant.
Il y a un doute qui subsiste. C'est pas très clair. Son audition n'est pas très claire. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun élément contre lui, bien entendu.
Christian Marletta reconnaît qu'il est passé au foyer ce jour-là. Mais il prétend être parti à 18h10, 18h15. Et il raconte qu'il a croisé Christelle. Elle rentrait de l'école. Elle était pressée. Marletta la connaît, il a été son éducateur. Alors il lui a proposé de la raccompagner au foyer en moto. La petite a accepté. Il l'a déposée devant Boisfleury. Elle est rentrée en courant. Puis dit-il, il ne l'a plus revue. Ce Christian Marletta intrigue les policiers.
On sentait qu'il avait quelque chose. Il transpirait, il était mal à l'aise, il avait les mains moites. Comme on dit chez nous, je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas.
Et c'est en fonction de ces hésitations, ces divergences, ces difficultés qu'il a pour expliquer telle ou telle chose, qu'on décide de le placer en garde à vue.
Et s'il est placé en garde à vue, c'est parce que Chantal, la sœur jumelle de Christelle, leur a raconté des choses tout à fait intéressantes sur cet homme. Des accusations graves. Il y a un an et demi, Christian Marletta se serait glissé dans son lit et se serait livré à des attouchements.
Les policiers, Chantal, vont vous interroger 2 heures avant d'entendre Christian Marletta. Et qu'est-ce que vous leur dites ?
Je racontais, il y avait à peu près un an et demi en arrière, avant que Christelle disparaisse, que Christian Marletta était venu un soir dans mon lit me faire des attouchements. Et qu'il était méchant avec moi, avec des paroles. Bon, des claques, ça, ils l'ont donné à tout le monde. Moi, j'avais l'habitude, c'est pas grave. Et j'ai expliqué ce qui s'était passé, mais les policiers, ils étaient pas au courant. Et il fallait pas le dire. Je crois que j'avais fait une gaffe.
Vous en aviez parlé à quelqu'un de ça, à l'époque, au moment de ces attouchements ?
Oui.
À qui ?
À ma mère Monique, j'en ai parlé. Qui m'a pas cru d'ailleurs, qui m'a giflé aussi. Et j'en ai parlé aussi aux éducateurs et aux éducatrices, le soir même. Bon, ils m'ont envoyé à l'école et ils m'ont dit, le soir, quand tu rentres, on verra ce qui s'est passé. Et le soir, il y a eu une réunion, il y avait quelques éducateurs, la directrice. Et bien entendu, avant, les enfants, c'était des menteurs, il fallait pas les écouter. Hein. Il y avait que la loi des grands qui était importante.
Donc ils vous ont pas cru ?
Non, pas du tout.
Aucun d'entre eux ?
Aucun d'entre eux. La directrice du foyer m'a giflé, lui, Christian, il m'a giflé, et mon éducatrice aussi m'a giflé.
Et comment ça s'est passé après ?
Alors j'étais obligée de passer dans tous les dortoirs. Si j'aurais pu être une petite souris, je crois que je me serais mis dans un trou. Et être obligée de passer, de regarder tout le monde et dire que j'avais menti, alors que c'était pas vrai.
Les relations avec Christian Marletta, après cet épisode-là, ça a été comment ?
Ça était très froid. D'ailleurs, je me mettais plus... Il se mettait sur une chaise et écartait les jambes pour qu'on se mette dessus la chaise pour nous coiffer. Moi, c'était fini, je le faisais plus. Je faisais plus confiance, plus de sourire. Christelle en avait très peur, alors il arrivait à la m'adouer. Moi, je lui disais, ne te fais pas coiffer par lui, mais bon... Je pourrais pas tout faire non plus. Hein. J'étais qu'un enfant. Hein.
Jacqueline Anglade, Chantal accuse Christian Marletta d'avoir fait des attouchements sur elle.
C'est ça.
À cette époque-là, vous êtes directrice du foyer de Bois-Fleury. Manifestement, vous ne l'avez pas cru à l'époque.
Bah, écoutez, j'ai quand même pris toutes les précautions qu'il fallait. On peut ne pas croire soi-même, au fond de soi-même, mais en tant que directrice, on est obligé de vérifier. Donc j'ai fait descendre Chantal dans mon bureau et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Alors elle m'a dit qu'un soir, Christian était rentré dans sa chambre et avait fait des attouchements sur elle. Et je lui ai demandé quel genre d'attouchement. Elle m'a dit, c'est pas difficile, vous n'avez qu'à appeler Stéphanie. Et Stéphanie est dans ma chambre, elle vous le certifiera. Donc je fais descendre la petite Stéphanie. Et Stéphanie dit, qu'est-ce que tu veux ? Alors Chantal dit, et Stéphanie la regarde ahurie et dit, mais tu m'as jamais parlé de ça, tu m'as jamais réveillée, tu m'en as jamais parlé, qu'est-ce qui te prend ? Alors là, je vous dirais que j'ai une réaction plutôt de mère de famille. Je me suis levée, je lui ai flanqué une gifle. Et je lui ai dit, pourquoi tu as menti ? Alors, elle dit, j'ai dit, maintenant tu vas faire le tour de tout le foyer, c'est-à-dire des 9 appartements, et tu vas dire que tu as donné de la diffamation sur Christian, et que ça n'est pas, qu'il ne t'avait rien fait.
Donc pour vous, c'est une affabulation, clairement.
C'était une affabulation, mais il fallait encore continuer. Donc quand Christian et sa femme sont rentrés de congé, puisqu'elle était aussi éducatrice chez moi, je l'ai laissé venir dans mon bureau, mais la porte ouverte, car je voulais que tout le monde entende. Et j'ai dit, voilà, Christian, pendant votre absence, il s'est passé ça et ça. Alors il réfléchit tout, et il dit, attendez, je l'ai puni un soir, faites-la venir. Donc on a fait venir la petite, et il lui dit, mais de quoi tu parles ? Tu parles du soir où je t'ai puni ? Alors elle répond pas. Alors il lui dit, un soir je t'ai envoyé coucher, mais je t'ai puni, mais je t'ai porté une assiette de soupe. Elle répond, je voulais me venger parce que c'était pas suffisant.
Donc pour la directrice du foyer, Chantal fabule. Marletta n'a pas abusé d'elle, Et si elle raconte cette histoire, c'est pour se venger de son éducateur qui vient juste de la punir. À l'époque, il n'y a pas eu de suite judiciaire. Mais cette histoire devient bougrement intéressante aujourd'hui, alors que Christelle a disparu depuis 6 jours. Désormais, Marletta est le suspect numéro 1. Et ça n'échappe pas aux journalistes marseillais qui ont leurs entrées à l'hôtel de police de Marseille, baptisé l'Évêché.
À l'époque, je vais pas vous mentir, on était vraiment rentré dans l'Évêché un petit peu comme chez nous, quoi. Donc oui, on a vu arriver Marletta. Bon, c'est vrai que vu la façon dont les policiers le travaillaient, on pouvait penser que ce témoin était important dans la disparition de la petite fille. Ouais.
Marletta, il dit, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Bien entendu, j'ai travaillé avec Chantal, avec Christelle, je les connais, c'était ma place. Je suis un éducateur, sans reproche. Et je suis incapable d'avoir fait du mal à un enfant.
Le soir tombe sur l'Évêché. Christian Marletta va passer sa première nuit de garde à vue. Les interrogatoires se succèdent. Toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses. Et du côté des policiers, toujours la même conviction.
Tout le monde avait le sentiment qu'on avait devant nous l'auteur des faits, mais on avait des difficultés parce qu'on ne trouvait pas la faille pour le mettre en défaut.
C'est quelqu'un d'intelligent, quoi. C'est quelqu'un qui essaye de s'en sortir parce qu'il sait qu'il est dans le collimateur, quoi.
Dominique Rizet, parlez-nous de ce Christian Marletta.
D'abord, physiquement, c'est quelqu'un qui ne peut pas passer inaperçu. Il porte une grosse barbe noire et il boite une polio qu'il a eue étant enfant. Il a 31 ans, il est marié, il a un petit garçon d'un an, il a un niveau d'études convenable, il a passé un bac technologique. Ensuite, il a voyagé un peu et il a exercé la profession de cuisinier pour gagner un peu d'argent. Quand il est revenu en France, il a décidé de devenir éducateur spécialisé et il a suivi des études pendant 3 ans. En 1979, il obtient son diplôme et il entre au foyer de Bois-Fleury à Marseille. Sa femme est éducatrice, comme lui. Elle travaille au foyer de Bois-Fleury. Ce sont des gens qui ont une petite vie réglée, bien lisse, une vie normale. En tout cas, ce qui intéresse les policiers, c'est de savoir si Christian Marletta a des antécédents judiciaires dans une quelconque affaire de mœurs avec des enfants, et ça n'est pas le cas.
Qu'est-ce qu'il dit sur son emploi du temps le jour de la disparition de Christelle ?
Christelle, elle disparaît un jeudi. Il est allé au foyer de Bois-Fleury, il raconte qu'il en est parti à 18h15 sur sa moto, qu'il a croisé Christelle qui revenait, elle avait l'air pressée, donc il lui a proposé de la raccompagner, elle a accepté de monter sur la moto, il l'a déposée devant la grille du foyer. Sa phrase c'est « Je l'ai vu rentrer en courant et j'ai démarré. Depuis, je ne l'ai plus revu. » Ensuite, il raconte qu'il est rentré chez lui et qu'il a passé la soirée à regarder la télévision. Et dans les jours qui suivent, parce que c'est important, le week-end, il s'occupe de son déménagement. Le lundi, mardi, il part dans sa maison du Lot. Et c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, il a auprès de lui des personnes qui peuvent dire qu'il avait un comportement tout à fait normal.
Jeudi 17 juin, 8h du matin, ça fait une semaine que Christelle a disparu. Marletta est en garde à vue depuis 15h maintenant. Et les policiers apprennent qu'on a retrouvé des restes humains dans le quartier du Merlan, au nord de Marseille. En ramassant des ordures près d'un supermarché, 2 employés d'une entreprise de nettoyage ont découvert près d'un escalier menant au parking 2 sacs poubelles mal ficelés. L'odeur est infecte.
Lors de manipulation de sacs dans des poubelles, un sac s'est crevé, on a découvert des restes humains qui semblent des restes d'enfants. Alors nous partons évidemment tout de suite sur place, essayer de voir ce qui se passe.
On voit tout de suite qu'il s'agit d'une fille de race blanche, petite, jeune, en tout cas pubère, pas formée, qui a été mutilée de façon absolument atroce.
Dans un sac, le tronc de la fillette. Dans l'autre, les jambes sectionnées au-dessus du genou. Le foyer du Bois-Fleury est à 10 km. Les policiers pensent tout de suite à Christelle.
Apparemment, il n'y a pas d'autres disparitions de signaler à la brigade des mineurs. Et donc, le rapprochement est vite fait.
200 militaires sont immédiatement réquisitionnés pour fouiller les bennes alentour et la décharge publique. On cherche d'autres sacs qui pourraient contenir la tête et le reste du cadavre. L'autopsie du petit corps supplicié ne permet pas d'identifier formellement la victime, mais elle indique que c'est bien le corps d'une fillette entre 8 et 10 ans. Christelle avait 12 ans, mais elle faisait beaucoup plus jeune. Une gamine morte par asphyxie. Vu l'état du cadavre, difficile de dater précisément la mort, entre un jour et demi et 4 jours, selon les experts. Les morceaux de corps ont été découpés et désossés comme par un spécialiste, un professionnel, un méticuleux. Les experts ajoutent que la victime aurait subi des sévices qui induiraient la thèse du viol par sodomie. En attendant, pour les journalistes marseillais, pas de doute. C'est le corps de Christelle qu'on a retrouvé.
Bien entendu, depuis une semaine, nous parlons tous les jours dans la presse, dans le Méridional, dans le Provençal, dans la Marseillaise, nous parlons tous de la disparition de la petite fille, et puis soudain, on découvre un tronc de petite fille. Vous imaginez que tout de suite, la relation est faite, et tout Marseille va être rapidement au courant.
Et l'annonce de la mort de Christelle suscite beaucoup d'émotions dans la population.
Il y a l'émotion, l'indignation, il y a beaucoup de choses qui se mêlent parce que on se dit quoi. C'est pas, d'abord, l'horreur, c'est de penser que quelqu'un puisse découper une gamine en morceaux. Ça, c'est le comble de l'horreur, quoi.
Le sentiment de Marseille à cette époque, si vous voulez, c'est une sensibilité très forte aux enlèvements d'enfants. Parce que Marseille a déjà vécu deux drames identiques avec l'assassinat de la petite Marie-Dolores Rambla, l'affaire Ranucci, puis, quelques années plus tard, l'assassinat de la petite Yvonne Poletto. Et si vous voulez, ce qui crée cette sorte d'hystérie médiatique et judiciaire, c'est le souvenir de ces affaires anciennes.
Deux plaies encore ouvertes dans la mémoire collective marseillaise. Deux meurtres de petites filles, suivis de deux condamnations à mort. Christian Ranucci a été exécuté en 1976. André Poletto a échappé à la mort grâce à l'abolition de la peine capitale. Poletto, assassin récidiviste, avait violé, tué et dépecé sa propre petite fille, Yvonne. Et maintenant, ce troisième meurtre horrible d'une petite fille. Marseille, horrifiée, se demande si elle n'est pas frappée d'un sort terrible qui l'a condamnée à revivre les faits divers les plus tragiques. À la police judiciaire, la découverte du corps donne un nouvel élan à l'enquête. Chantal, la sœur de Christelle, est à nouveau convoquée à la brigade des mineurs.
Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Je suis moi-même jumeau. Et je tenais la petite gamine par la main. Elle me disait, tu vas me retrouver ma sœur. Et sachant que c'était, je l'avais retrouvée, mais dans quel état. Et être obligé de dire oui et de sourire, c'est quelque chose qui marque. C'est marque profondément. Et donc, oui, on n'est pas préparé à ça.
Christian Marletta, toujours en garde à vue, continue de dire qu'il n'y est pour rien. Mais les policiers sont certains du contraire. Deux inspecteurs vont perquisitionner son appartement au cœur du vieux Marseille. Mais ils font chou blanc. Les interrogatoires reprennent. Marletta reste imperturbable.
On développe toujours les mêmes questions, les mêmes questionnements, et pourquoi, et où, etc. Et on est toujours devant cette personne qui reste, comme son physique, là, très costaud dans ses réponses, et qui lâche rien, quoi. Donc, plus on avance de la fin, plus on vacille, nous, sur nos certitudes aussi, puisque une présomption de culpabilité vaut rien tant qu'il n'y a pas d'éléments qui l'étayent.
Au fil des interrogatoires, Christian Marletta raconte la même histoire. Il a croisé Christelle, il l'a ramenée à Boisfleury sur sa moto, et rien d'autre. Deuxième nuit de garde à vue, rien de neuf. À l'aube du vendredi 18 juin, cela fait 38 heures qu'il subit le feu roulant des questions. Les policiers n'ont plus que 10 heures pour le faire craquer.
On ne sait plus quoi faire et j'ai personnellement alors une idée. Je ne sais pas si c'était la bonne au départ, j'en parle avec M. Guénassia qui est d'accord. C'est de mettre cette personne, Christian Marletta, devant le cadavre. Devant le cadavre, parce que je me dis, si il y est pour rien, il n'y aura pas la même réaction que s'il y a quelque chose qui s'est vraiment passé.
Alors, à 7h30 du matin, l'inspecteur Marine Imki et un de ses collègues emmènent Christian Marletta en voiture, direction la morgue. Et là, ils se font ouvrir l'armoire réfrigérée où sont conservés les morceaux du cadavre de Christelle.
Je revois encore le petit corps sur la paillasse dans un sac en plastique. Quand on ouvre le sac en plastique blanc, c'était horrible. Et là, Marletta a carrément changé de tête et a chancelé. On le tenait, sinon il s'écroule. Et il a dit « Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas bien ce que vous m'avez fait ?» Et on lui a dit « Écoute, maintenant tu es devant quelque chose, si c'est toi, ben maintenant il faut que tu nous le dises, parce que regarde ce qui s'est passé, regarde ce que tu as fait. » À partir de là, avec le collègue, nous nous sommes regardés, et afin qu'il ne change pas d'idée, qu'il ne réfléchisse pas à autre chose, nous l'avons pris et nous l'avons ramené directement, sans un mot, dans les locaux de l'évêché.
Louis Bartholomé, vous êtes le premier substitut du procureur de Marseille. À l'époque, c'est vous qui allez diriger toute cette enquête. Ça vous paraît correct, ça, de sortir un type de garde à vue au bout de 36 heures et de le mettre face à un cadavre, sur le plan psychologique ?
C'est pas la torture la plus éprouvante. Il y en a eu d'autres. Je n'ai pas à intervenir sur les modalités de les façons dont les policiers obtiennent des aveux.
Parce que voilà un type qui n'a pas dormi, à qui on présente un cadavre. Enfin, n'importe lequel d'entre nous, peut-être pas vous parce que vous avez l'habitude, mais est très déstabilisé par ça.
Pour moi, les violences policières sont surtout des violences physiques qui sont inadmissibles. Là, c'était une pression psychologique. Chacun gardera son jugement. Quoi.
Sur le chemin du retour, Marletta s'insurge. Vous êtes des pourris de m'avoir montré ça. Vous voulez me mettre ça sur le dos ? Avant un nouvel et sans doute dernier interrogatoire, les policiers, conscients que quelque chose s'est passé à la morgue, tentent un nouveau coup de poker.
Il y a un inspecteur qui dit « Moi, je vais essayer un coup de bluff. » Un coup de bluff. Il va chercher le sac bleu dans lequel a été donc trouvé le corps de la petite, le tronc de la petite, et il présente ce sac bleu à Marletta, mais sans rien dire. Il lui dit « Et ça ?» Et Marletta s'imagine que, sur le sac, les policiers ont découvert ses empreintes à lui.
Un sac plastique, avec une inscription peu courante. On a souvent besoin d'une pince à clé chez soi. Et là, Christian Marletta reconnaît que ce sac lui appartient.
On lui dit « Bon, maintenant... explique-toi », et puis c'est là qu'il s'explique sur les conditions dans lesquelles il a été amené à rencontrer et à tuer Christelle Vancourt.
Christian Marletta vient d'avouer après presque 2 jours de garde à vue. C'est lui qui a tué Christelle Vancourt. Ses aveux ne s'arrêtent pas là. Il raconte en détail comment ça s'est passé et ce qu'il a fait le 10 juin, en fin d'après-midi.
Marletta raconte que le 10 juin, il quitte le foyer Bois Fleuri vers 18h15 et croise Christelle, qui rentre de l'école. Il la ramène sur sa moto. Mais ce qu'il n'avait pas encore dit aux policiers, c'est qu'il repasse dans le quartier quelques minutes plus tard et qu'il la croise à nouveau, alors qu'elle va chez le dentiste. Il lui propose de monter sur sa moto.
Donc il l'a emmené sur sa moto. Ils ont fait un tour dans le quartier. À un moment, il est passé sur un obstacle, là, Christelle est tombée.
Christelle est étourdie dans sa chute. Elle a mal au dos. Marletta la ramène alors chez lui, dit-il, pour examiner ses blessures. Christelle est sonnée. Il l'assoit sur son lit. Elle le regarde bizarrement. Il est vrai qu'elle ne devrait pas être là. C'est interdit par tous les règlements.
Il a regardé, elle ne parlait pas, il a pris peur et il a serré son cou, c'est ce qu'il dit. Hein.
Je lui ai serré le cou, elle est tombée au sol, je me suis penché sur elle et j'ai constaté qu'elle ne respirait plus. Marletta doit maintenant se débarrasser du corps. Il la déshabille, se saisit d'un grand couteau de cuisine et d'un hachoir et commence à découper le cadavre dans sa salle de bain.
Il a dépecé, il n'y a pas d'autre mot, la gosse en l'emmenant dans la salle de bain et en découpant les os, en tordant, en coupant. Et puis après, il a pris des sacs qui se trouvaient chez lui.
Marletta met les morceaux de corps dans les sacs. Il en prend deux et part en moto s'en débarrasser dans un endroit isolé. Il fait encore jour. Marletta raconte qu'à un moment donné, il se trouve près du centre commercial dans le quartier du Merlan, au nord de Marseille. C'est là qu'il choisit le parking pour se débarrasser des sacs. Il les jette dans un escalier menant au sous-sol.
Le sentiment qu'en la faisant disparaître, tout disparaissait, ça renvoie à la structure mentale, quoi. Quelqu'un qui est en fait, sous son apparence robuste, costaud, excessivement fragile, et qui pense que c'est comme son fantasme, quoi. Une fois que le fantasme est assouvi, bon, on passe à autre chose, ça disparaît, on enlève le corps, personne n'en parlera plus, quoi.
Marletta raconte qu'ensuite, il repasse chez lui. Il prend les autres sacs contenant les morceaux restants et se dirige toujours en moto vers la Pointe Rouge, une plage au sud de la ville. Là, au bout de la jetée, il se débarrasse des derniers sacs en les jetant à la mer. Vendredi 18 juin, il est 10h du matin quand Christian Marletta signe ses aveux. La dernière phrase du procès-verbal laisse perplexe. « J'explique mon geste par mon affolement, je ne comprends pas d'ailleurs ce qui m'a pris. »
Louis Bartholomé, une fois que Marletta a avoué aux policiers, vous décidez de le voir personnellement, donc vous-même, tout de suite et sur place à la brigade criminelle. Pourquoi ?
Compte tenu de la gravité des faits, j'estimais qu'il était de mon devoir de monter en première ligne. On ne peut pas laisser la police qui avait travaillé pendant 48 heures sans une double lecture du travail qu'ils avaient fait. Et puis, il faut se souvenir également que Marseille était sous pression et il y avait un inconscient collectif très sensible à ce genre d'affaires. Quoi. Et je ne voulais pas que, dans ce contexte-là, qu'on livre une fausse solution à un réel problème.
Au fond, vous souhaitiez qu'il avoue à nouveau devant vous, quoi.
Souvent, des aveux sont passés devant les services de police et ensuite, il y a des rétractations qui s'en suivent. Je voulais donc vérifier le travail qui avait été fait dans la nuit et si on pouvait d'ores et déjà corroborer par des éléments objectifs.
Est-ce qu'il vous paraît soulagé ?
Ni soulagé, ni accablé. comme quelqu'un qui va me parler d'une chose qui lui est presque extérieure. C'est le sentiment que j'avais. Mais quand je lui ai demandé est-ce que vous accepteriez de m'accompagner donc à la Pointe Rouge où vous avez, dites-vous, jeté les autres morceaux du cadavre, il m'a répondu spontanément oui.
Comme libéré par ses aveux, Christian Marletta semble vouloir collaborer pleinement avec la justice. Il emmène donc le procureur là où il s'est débarrassé des derniers morceaux du cadavre.
Il accepte de nous conduire à la Pointe Rouge où il a jeté la deuxième partie de les vêtements et le reste du corps humain de Christelle.
Mais sur place, les policiers, le procureur et les plongeurs ne sont pas seuls. Il y a eu des fuites et ils trouvent des journalistes.
Il n'y a pas que des journalistes, il y a des badauds, il y a des citoyens, il y a des mères de famille, il y a des pères de famille, il y a tout Marseille. On est là avec des bâtons à chercher nous aussi. Alors est-ce qu'on fait un rôle de policier ou un rôle de papa, de maman, je ne sais pas.
Les policiers fouillent entre les rochers. Les plongeurs scrutent soigneusement les fonds près de la jetée. Mais à la fin de la matinée, il faut se résigner. On n'a rien trouvé à la Pointe Rouge.
Alors, monsieur Bartholomé, on ne retrouve pas les restes à la Pointe Rouge. Ça vous fait douter ?
Mais je suis retombé à ce moment-là sur mon interrogation. Est-ce que je n'ai pas affaire en face de moi un mythomane ? Et immédiatement, au bout d'une heure ou deux, ne retrouvant rien, j'ai ordonné qu'on le ramène à l'hôtel de police. Je me suis enfermé à nouveau avec lui, seul à seul. Nous avons rediscuté et je lui ai demandé « Est-ce que vous accepteriez de m'emmener là où on a découvert le tronc de la petite Christelle ?»
Il dit oui.
Oui.
Mais il dit oui, ce qui en quelque sorte est une manière de... au fond, de corroborer ses aveux, quoi, de les concrétiser.
Ah, ce qui est encore plus important, ce n'est pas qu'il dise oui pour corroborer ses aveux, c'est la façon dont il me conduit personnellement, donc cette fois-ci, au supermarché du Merlan, qui est un quartier nord de Marseille. Quand on arrive à proximité, je le fais descendre de la voiture, j'ordonne qu'on le désentrave, et le policier et moi-même, nous restons à un mètre derrière lui. Et c'est Marletta qui, d'un pas, il claudique un tout petit peu, nous conduit devant l'escalier où on avait retrouvé, une semaine auparavant, le cadavre de Christelle. Il faut que vous sachiez, ça me paraît important, que le parking du Merlan, supermarché du Merlan, c'est un immense parking. Où il y a trois escaliers séparés de plusieurs cinquantaines de mètres.
Et lui, il va directement au bon.
Et lui, dès qu'il sort de la voiture, il se dirige vers le bon escalier.
Il n'a pas pu lire dans la presse quel était le bon escalier au moment de la découverte du corps.
Non, non.
En fin d'après-midi, ce vendredi 18 juin 1982, 8 jours après la disparition de Christelle, Christian Marletta est déféré devant le juge d'instruction et une fois de plus, il réitère ses aveux. Le juge d'instruction l'inculpe donc pour l'assassinat de Christelle. Il est écroué en fin de journée à la prison des Baumettes.
Le lendemain des aveux, la presse marseillaise se déchaîne contre Marletta, décrit comme un monstre froid, un dépeceur de petites filles. Même son physique joue contre lui. Sa barbe noire touffue, sa démarche claudiquante.
Tout Marseille crie à mort. C'est le cri unanime, mais unanime, quelle que soit la conviction politique des uns ou des autres.
Les Marseillais, où que vous alliez, vous aviez les pêcheurs qui parlaient de l'affaire Marletta. Vous aviez les marchands de poissons sur le quai qui parlaient de l'affaire Marletta. Alors, elle dit, tu as vu ce salaud, enfin, etc. Tu as vu ce qu'il a fait à la gamine, des trucs comme ça.
La presse attise les passions. Elle donne la parole aux nostalgiques de la peine de mort. certains en appellent au lynchage. L'ancien éducateur de Christelle est jugé et condamné par avance. Au Beaumet, Christian Marletta est placé à l'isolement. En prison, il ne fait pas bon être tueur d'enfants.
Dominique Rizet, quelques jours après son incarcération, Christian Marletta va être vu par des psychologues. Et là, il va revenir sur ses déclarations.
Oui, Christophe, il va être vu en tout 5 fois par différents experts. On se souvient qu'il a avoué devant les policiers, devant le procureur de la République et devant le juge d'instruction. D'accord ? Premier entretien avec un expert, coup de théâtre, Marletta revient sur ses aveux et dit « les policiers se sont trompés, ils changent radicalement de position ». Il dit « j'ai été inculpé sur la foi de coïncidence ». D'accord ? Et là, l'expert note qu'à ce moment-là, Marletta présente une attitude étonnamment détendue à la limite de la jovialité. Deuxième entretien avec un expert, il maintient cette déclaration. Il n'a pas tué Christelle. Nouveau revirement au cours du troisième entretien. Là, il dit « ok, j'ai enlevé, j'ai tué Christelle », mais il nie le viol. Et il s'effondre en pleurs un court instant et il dit « ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas de remords ». Quatrième entretien, cinquième entretien, il reste sur cette position. Il a tué Christelle, mais il ne l'a pas violée. Dans ses deux derniers entretiens, il donne toujours cette version. Donc, il l'a tué, mais il est inquiet parce qu'il n'éprouve toujours pas de remords. C'est un peu comme s'il avait évacué complètement de son esprit le meurtre de la petite fille. Et le soir même, donc il raconte quand il est rentré chez lui, je m'en souviens bien, j'étais bien, j'avais comme oublié. J'ai même regardé les variétés à la télé. Les 3 jours qui ont suivi, pareil, j'étais normal, heureux, comme si de rien n'était. Et puis il y a cette dernière phrase à son psy. Je crois que quand je l'ai découpé, c'est un automatisme qui est revenu, comme quand je travaillais en cuisine.
Les policiers et le juge d'instruction sont convaincus de la culpabilité de Marletta, mais ce qui leur manque, ce sont des preuves matérielles.
Une nouvelle perquisition est menée dans son appartement de la rue des Abeilles. Les policiers y découvrent des manuels d'anatomie et des sacs poubelles identiques à ceux qui contenaient les restes de Christelle. Ils cherchent aussi des traces dans la salle de bain.
On essaye de rechercher des traces de résidus humains, on démonte les siphons. Alors celui de la douche est très 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 propre, comme s'il avait été abondamment rincé. Par contre, dans le lavabo, le siphon du lavabo, lui, est tout à fait comme habituellement on les trouve, c'est-à-dire avec des cheveux, avec des restes de... Bon, tout à fait logique.
La salle de bain est tellement propre que ça en est suspect. Mais ça ne fait pas une preuve. Il n'y a pas de traces de sang. On a juste retrouvé un petit lambeau de peau dans l'aspérité du siphon de la douche. Mais à l'époque, pas d'ADN. Impossible de dire s'il appartient à Christelle. Certes, dans la maison que Marletta possède à Cahors, on trouve des couteaux étrangement usés. Mais dessus, aucune trace de sang humain. La seule preuve dont il dispose est mince. Marletta est sans doute allé à la Pointe Rouge en moto.
On a pu faire des prélèvements sur les roues et sur les garde-boue de sa moto qui ont révélé que c'était un sable identique à celui qui venait de là. C'était quand même aussi, ça venait, c'est pas déterminant, mais ça contribue à ajouter, à cumuler un peu les preuves.
Au total, les policiers pointent 10 d'éléments matériels qui collent avec les aveux délivrés par Marletta. Disons que c'est un peu léger.
Monsieur Bartholomeï, au fond, dans ce dossier, il y a quand même quelque chose qui est assez constant, c'est qu'on manque de preuves matérielles. Vous en convenez de ça?
Preuves matérielles, on a le cadavre qui a été découpé, désossé d'une certaine façon. C'est lui qui nous l'indique. Il n'a pas assisté à l'autopsie. Et puis, quand on a tous les éléments du cadavre réunis, les médecins légistes confirment que le cadavre a été désossé tel que...
Lui, il l'a décrit.
L'a décrit. Donc, si vous appelez ça une absence d'éléments matériels, Ah, qu'il n'y ait pas eu de témoin au moment où il a désossé le cadavre.
Il n'y a pas de témoin du tout dans cette affaire.
Oui, mais vous avez souvent des témoins quand on assassine quelqu'un.
Mais il n'y a pas non plus de témoins qui l'ont vu précisément à tel endroit avec la fillette, l'emmener de tel endroit à tel autre, etc.
Oui, non.
Il n'y a personne qui l'a croisé sur le chemin du dentiste, etc.
Non. Sa présence le jour de l'enlèvement, de la disparition de la petite Christelle, est attestée par de multiples témoins.
Mais personne ne l'a vu avec l'enfant.
Personne ne l'a vu avec l'enfant.
Personne ne l'a vu jeter les sacs poubelles.
Personne ne l'avait vu avec les sacs poubelles, oui, bien sûr, oui.
Mais c'est faible, c'est une faiblesse pour le dossier, ça, quand même, non? Ou pas?
Ah ben, si vous annulez ces aveux réitérés devant la police, devant le magistrat du parquet, devant les 4 psychiatres experts, si vous m'enlevez les 14 points de correspondance entre ces déclarations et les correspondances objectives, si vous m'enlevez tout ça, effectivement, je n'ai plus rien. Mais, par un tour de magie, vous me faites disparaître tout le dossier.
Dans les failles du dossier, il y a le fait qu'il ne reconnaît pas le viol de l'enfant. Or, le viol offre un mobile. Le mobile est de violer l'enfant et puis de la tuer pour ne pas qu'elle parle. S'il ne reconnaît pas le viol, alors au fond, il ne reconnaît pas le mobile. C'est une faiblesse, ça, non?
Pas du tout. Professionnellement parlant, il m'est arrivé de rencontrer donc des accusés qui, même en cour d'assises, donc avouaient avoir étranglé de façon horrible une jeune victime, sans se rendre compte de l'horreur de leur déclaration, et qui maintenaient, mordicus, avoir jamais donc commis un sévice sexuel. Là, il y a un mécanisme qui s'appelle, que les psychiatres expliqueront mieux que moi, qui s'appelle le déni de réalité, quoi. C'est quelque chose de classique pour moi de voir nier le sévice sexuel.
Les premières semaines de prison sont difficiles pour Christian Marletta. Soumis à l'isolement, sans droit de visite, il exprime des idées suicidaires. Il désigne deux avocats, dont Maître Voulan, qui acceptent de le défendre et pensent sans doute qu'il lui faudra plaider les circonstances atténuantes. Mais dès le premier rendez-vous, surprise.
Au moment où je prends ce dossier, je pense que, puisqu'il a passé des aveux, nous allons devoir travailler sur de la psychiatrie, de la psychologie, expliquer un passage à l'acte, essayer d'ouvrir ce crâne et savoir pourquoi. Et en fait, très rapidement, et en tout cas devant moi, Christian Marletta dit qu'il est innocent et que ce n'est pas lui et qu'il n'a pas fait ça.
Pas de chance. 10 jours après ses aveux, on retrouve un bras gauche et une jambe d'enfant près de la digue de la Pointe-Rouge. Puis 2 autres membres une semaine plus tard, pratiquement au même endroit. Le feuilleton macabre s'achève le 11 juillet. Un plongeur découvre sur le fond rocheux, à une 20aine de mètres de la plage, une tête humaine sans la mâchoire inférieure. Cette fois, l'examen de la dentition permet une identification formelle. C'est bien Christelle.
Et c'est là que Marletta se rétracte devant le juge d'instruction. On se rappelle qu'il s'était rétracté devant le psychologue, puis devant son avocat, mais là, il le fait officiellement sur procès-verbal. Il n'a pas assassiné la petite Christelle. Il a juste fait le sale boulot.
Il raconte qu'il a trouvé le cadavre de la fillette chez lui, dans le couloir, le soir de son retour du Lot, où il avait passé 3 jours pour son déménagement. Il est revenu à Marseille le mardi 15 juin dans la soirée, la veille de sa convocation chez les policiers. Je me suis affolé, j'ai pas pensé à prévenir la police. C'est là que j'ai pensé à la découper. Il fallait que je m'en débarrasse. Comme toujours, les journalistes apprennent vite la nouvelle et en font leur gros titre.
Il dit que c'est pas vrai, quoi. Alors qu'il a donné des détails que lui seul connaissait. Comment un gars qui se vide comme ça du jour au lendemain, qui veut se donner bonne conscience, dit « Non, c'est pas moi, j'ai été frappé, j'ai été ceci, j'ai... » C'est... Je veux dire, il en a rajouté à l'horreur. Revenir sur ses aveux, c'était presque aussi grave que son crime, quoi.
Marletta confirme et va plus loin. 10 jours plus tard, le 15 juillet, il écrit au juge d'instruction. pour cette fois se rétracter totalement. Il n'a pas tué Christelle, mais il n'a pas non plus dépecé son cadavre, contrairement à ce qu'il disait 10 jours avant. Il aurait trouvé derrière sa moto des restes humains qu'il a ensuite jetés dans le parking du supermarché du Merlan. J'ai pensé prévenir la police, mais comme je n'ai pas confiance en elle, je ne l'ai pas fait. Alors quel Marletta croire ? Celui qui plaide coupable, à moitié coupable, ou celui qui se dit aujourd'hui innocent ?
Une erreur judiciaire est souvent provoquée en partie, quelquefois en très grande partie, par la faute de l'accusé lui-même. Et il est bien évident que Marletta innocent n'a pas eu le comportement de ce qu'on croit être Monsieur Tout-le-Monde innocent.
Marletta écrit qu'il est innocent, mais ça n'émeut pas beaucoup le juge qui ne le convoque que 4 mois plus tard pour recueillir sa rétractation. Et surtout, pour l'inculper officiellement du viol de Christelle.
Monsieur Bartholomé, lorsque Marletta se rétracte, vous êtes troublé par ses rétractations ou pas du tout ?
Pas du tout. Pas du tout, parce que j'avais donné des ordres précis à la maison d'arrêt pour qu'il soit surveillé au niveau de sa sécurité, parce que devant une chose pareille, l'être humain, il a 2 options. Ou il se suicide, ou il se rétracte.
C'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour un détenu d'assumer ça face aux autres détenus,
exactement.
C'est ça que vous nous dites ?
Il n'était pas possible d'assumer ça devant les autres détenus, parce qu'effectivement, ils ont une vie assez difficile par rapport aux autres détenus. Mais par rapport à lui-même, la dénégation judiciaire, au fond, n'est que la traduction de ce qu'on appelle le déni de réalité. Donc là aussi, ces rétractations, je les attendais. J'attendais même son suicide, pour ça que j'avais donné des instructions très précises pour qu'on double quand même la surveillance de Marletta.
Pendant l'enquête, maître Anne Disler vient rejoindre la défense de Marletta, qui est désormais arc-boutée sur son innocence.
Quand il a été entendu par le magistrat instructeur, il est immédiatement revenu sur ses déclarations, mais c'était trop tard et en droit français, enfin je veux dire surtout en jurisprudence française, l'aveu c'est un peu la reine des preuves et à partir d'un aveu, il est très très difficile de remonter le courant et le fil d'un dossier.
En octobre 83, cela fait un peu plus d'un an que Christian Marletta est en prison. Lors d'une nouvelle expertise psychiatrique, il apporte une touche finale à sa version des faits. Il explique maintenant qu'un coup de téléphone anonyme est à l'origine de tous ses problèmes. Un appel reçu à son domicile marseillais le lendemain matin de son retour de Cahors.
Une menace, un coup de fil anonyme qui lui a dit « Si vous ne vous débarrassez pas de ce qui est contenu dans un sac sur votre moto, votre femme et votre fille seront de graves ennuis. »
Marletta dit avoir pris cette menace au sérieux. Il a eu peur pour sa femme et son fils. Il a donc décidé de se débarrasser de cet encombrant colis sans avertir la police, puisqu'il n'avait pas confiance en elle. Il part avec les sacs, décide au hasard de les jeter sur un parking de supermarché avant d'aller à la Pointe Rouge pour, dit-il, réfléchir à ce qui venait de lui arriver. S'il a ensuite avoué le crime, c'est parce qu'il n'en pouvait plus de sa garde à vue.
Les avocats de Christian Marletta savent que leur client a tout contre lui. Et pourtant, à partir de ce moment-là, convaincus que leur client est innocent, ils vont exploiter toutes les zones d'ombre de ce dossier.
Les avocats de Marletta veulent démontrer que le dossier est bourré d'incohérences, notamment dans la chronologie des faits. Il y a des choses qui ne collent pas. Le juge n'a pas organisé de reconstitution. Les trajets, les alibis, les horaires, les déplacements de chacun, tout ça reste flou. Et ce qui est troublant, c'est que de bout en bout, il n'y a pas de témoin.
Je veux dire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Personne n'a rien entendu, personne n'a rien vu. Personne n'a vu Marletta avec cette gamine sur sa moto, cette gamine sans casque.
Et aucun témoin non plus parmi les voisins de Marletta. Étonnant que dans ce vieil immeuble aux cloisons fines, en plein jour, personne n'ait rien entendu de ce qui se déroulait chez lui.
Personne ne l'a vu, pas de cri, rien. Les analyses ne nous donnent pas la certitude que sur les couteaux retrouvés chez Marletta, ce soit du sang humain.
Aucune reconstitution non plus n'est organisée dans l'appartement de Marletta. Notamment pour voir s'il est possible de transformer cette minuscule salle de bain d'1m30 sur 1m30 en abattoir. D'autant qu'on n'a trouvé aucune trace de sang, ni sur les sols, ni sur les murs, pas même dans les jointures poreuses du carrelage. Alors qu'en principe, la découpe d'un cadavre entraîne des projections.
Marletta avait avoué, c'était cousu de fil rouge. Il y avait le rapport d'autopsie dans ce dossier, le rapport d'expertise psychologique et psychiatrique de Marletta, point barre.
Le rapport d'autopsie, justement, il offre un argument à la défense. Avec les réserves d'usage, le médecin établit que la mort se situe dans une période qui va de 36 heures à 4 jours. On a retrouvé le tronc de Christelle le 17 juin. Cela signifierait qu'elle a donc été étranglée le 13 juin au plus tôt, le 15 au plus tard. Et ça voudrait dire que Marletta n'est pas l'assassin. Du 13 au 15, il est dans le Lot pour emménager dans sa nouvelle maison. Et beaucoup de monde l'a vu. Son père qui l'accompagne, bien sûr, mais aussi le notaire, l'agent immobilier, des villageois.
Si elle est morte le 10, ça peut être Marletta. Si elle est morte le 13, ça ne peut plus être Marletta. Donc, il y avait là, sur des points très forts, des zones de doute intense.
Enfin, reste à résoudre un mystère, celui de la pointe rouge. Le vendredi 18 juin, quelques heures après ses aveux, Christian Marletta emmène magistrats et policiers sur le lieu où il dit avoir jeté le reste des morceaux de cadavres.
Et à ce moment-là, on ne trouve rien. On ne découvre rien. Il n'y a rien. Et dans cet instant-là, je ne crois pas que Marletta soit une espèce de Machiavel qui monte un coup à décharge, on va dire, je crois pas. Et je crois qu'il est dans le n'importe quoi à ce moment-là.
Mais le problème pour Marletta, c'est que c'est là, à la pointe rouge, qu'on va retrouver les morceaux manquants. Pour l'accusation comme pour l'opinion, l'explication est assez simple.
Les sacs ont été cachés dans des anfractuosités de rochers. Bon, ils vont se disperser, ils vont aller au large, ils vont revenir. Je pense que la découverte du reste du cadavre est liée à la mer, au mouvement de la mer, au ressac permanent, vous voyez.
Pour les avocats de Christian Marletta, ça ne tient pas. Et ils posent une question. N'est-il pas curieux que les parties du corps s'échouent là, à intervalles réguliers, chaque week-end, pile à l'endroit désigné par Marletta?
On va nous soutenir que si vous jetez un objet à la pointe rouge le lundi, que les courants l'emportent en direction du Frioul, eh bien le lundi d'après, vous pouvez le retrouver au même endroit. On va nous soutenir ça.
La rade a été draguée, on aurait dû retrouver des bouts de corps qui sont arrivés une semaine après, et même pour le dernier morceau, trois semaines après. Alors que Marletta est à la prison, hein, c'est plus que troublant.
Et c'est vrai que ça fait rire lorsqu'on plaide le complot, mais on se posait la question de savoir si Marletta n'était pas victime d'un fou furieux qui venait là, tous les 8 jours, à l'endroit qu'avait montré la presse, les photos assez en plan large, à la une de la Provence, parfaitement repérables pour n'importe quel Marseillais, et s'il n'y avait pas une espèce de fou furieux qui venait là, apporter.
Jacqueline Anglade, au moment des faits, vous n'êtes plus directrice du foyer de Boisfleury. Vous êtes en vacances, par ailleurs. Et pourtant, à aucun moment, vous ne doutez de l'innocence de Christian Marletta. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Eh bien, Christian était mon meilleur éducateur et de loin. C'était un garçon qui avait un caractère très serré, mais qui avait une conscience professionnelle comme je n'en avais pas encore connu après plus de 20 ans de métier. Donc, si vous voulez, quelquefois, il nous arrivait de nous confronter, mais c'était tout à fait normal. Donc, j'avais une confiance totale en lui. Mais moi, je ne l'avais pas revu. Lui ne travaillait plus à Guafleury et moi, j'avais pris ma retraite. Donc, on ne s'était pas revu. Mais je me disais, si Christian avait fait une chose pareille, vu l'amour qu'il porte à sa femme et à son fils, il va se tuer. Et au bout de 15 jours, il ne s'était pas tué. Et j'ai dit, ma conviction est profonde, il ne l'a pas faite.
Lorsqu'il a avoué, néanmoins...
Vous savez dans quelles conditions il a avoué ? Vous savez dans quelles conditions Christian a avoué ? Je crois que personne ne l'a jamais dit. Vous savez ce que fait la justice, quelquefois, ou les policiers ? Ce garçon avait eu la poliomyélite. Il avait donc une jambe qui était atrophiée. On l'a déshabillé, on l'a attaché à un radiateur, et on lui a tapé sur la tête avec un bottin. Et il s'est senti devenir fou. Voilà dans quelles conditions Christian a avoué. Personne ne l'a jamais dit. Moi, je vous le dis aujourd'hui.
Donc ces aveux ne vous font jamais douter ?
Oh, pas du tout.
Et pourtant, il les réitère devant le juge d'instruction, et puis il n'est pas à poil. Et puis il les réitère devant les experts psychiatres et psychologues, et il n'est pas à poil non plus.
Je pense qu'il craignait pour sa femme. Il craignait pour sa femme et pour son fils. Il ne faut pas oublier qu'il avait reçu des menaces. Il ne faut pas oublier qu'il avait reçu ce fameux coup de téléphone quand il était chez lui. Donc, il avait très peur. Vous savez, Christian avait un amour fou pour sa femme et pour son gosse. Il fallait les voir ensemble. Hein.
Je sais qu'il y a eu ce qui s'appelle des passages à tabac à l'évêché peut-être pour des affaires de braquage, pour des affaires... Mais je vous assure que là, il y a eu vraiment un travail psychologique. Quoi. On était derrière la porte et s'il y avait une règle qui tombait, on l'entendait. Quoi. Et il n'y a eu aucune violence. Et on a entendu... Le seul bruit qu'on entendait, c'était le crépitement de la machine à écrire de l'époque.
Vous pensez bien que, dans une affaire de cette importance-là, ça aurait été complètement déraisonnable d'essayer d'obtenir des aveux par la violence. C'était complètement... D'abord, c'était pas le but, c'est pas la manière avec laquelle je travaille. Et puis, c'était pas une garantie non plus d'obtenir quelque chose.
Au fond, pour vous, à l'issue de votre réquisitoire définitif, c'est un dossier sérieux qui part aux assises. Solide.
Moi, au terme de nos investigations policières et judiciaires, j'ai le souvenir d'un dossier que l'on a pris dans le calme, dans la sérénité malgré l'horreur du crime, et on a... comme on dit dans notre jargon, verrouiller systématiquement tout ce qu'on pouvait verrouiller, quoi. Et que je n'ai jamais eu dans ma carrière de dossier aussi solidement ficelé.
Trois ans après les faits, avec un dossier d'instruction plutôt bien ficelé, Christian Marletta comparaît devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour homicide volontaire et viol sur mineur de moins de 15 ans. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Christian Marletta est en prison depuis 3 ans quand s'ouvre son procès. Il a aujourd'hui 33 ans. Devant la cour, il répète qu'il n'a ni tué, ni dépecé Christelle.
Marletta était égal à lui-même, il regardait le président droit devant lui et il répondait à toutes les questions. Et évidemment, on le vivait comme enfermé dans sa bulle, mais il n'avait rien d'autre à dire que « je suis innocent ».
Alors Christian Marletta, il me semblait que cet homme était absent, comme si les débats parlaient de quelqu'un d'autre. Je pense que dans son esprit, il était totalement innocent des faits reprochés et que c'était pas possible qu'il ait pu commettre de telles choses.
À un moment donné, on le sentait partir pour faire quelque chose, pour dire quelque chose, et puis subitement, il était ramené à lui-même, donc, et il restait calme.
Les experts psychiatres estiment que Marletta est accessible à une sanction pénale. Il est même décrit comme pourvu d'une intelligence très au-dessus de la moyenne. Dès lors, la peine encourue est maximale. Perpétuité.
L'affaire renaît devant la cour d'assises en 1985, donc 4 ans après l'abolition de la peine de mort. Je n'ai pas du tout eu l'impression qu'à cette audience-là, c'était une réplique d'un procès qu'on a pu ou des procès qu'on a pu connaître avant l'abolition de la peine de mort, ou bien juste après. On jugeait quelqu'un dont on savait pertinemment que s'il était coupable, la sanction applicable était la perpétuité.
Je peux dire que la disparition de la peine de mort a totalement changé l'ambiance. J'étais très inquiet, et là, surprise, pas un mot, pas un crachat, des regards hostiles, bien sûr. Ça s'est passé, je dirais, normalement, il n'y a pas eu d'incident.
De nombreux témoins viennent dire du bien de l'accusé. Sa famille, ses amis, mais aussi de nombreux collègues éducateurs. Ils décrivent un homme certes à poigne, autoritaire, mais irréprochable, incapable de violer, d'étrangler, puis de dépecer une petite fille. Et les attouchements sur Chantal, demande le président. Des fantasmes, martèle l'ancienne directrice de Boisfleury. Ces dépositions renforcent l'image d'un Marletta bon père et bon éducateur, mais elles n'apportent rien sur les faits eux-mêmes. Sur ces faits, Marletta tente d'argumenter. Il est victime d'un piège, tendu par le meurtrier qui lui a donné ce coup de fil anonyme. Celui qui lui aurait ordonné de se débarrasser des sacs contenant des morceaux du cadavre. Celui qui a ensuite jeté les restes de corps à la Pointe Rouge. Mais vos aveux alors, rétorque l'avocat général, pourquoi avoir avoué le crime et le dépeçage? Pourquoi avoir désigné la Pointe Rouge? Marletta n'a qu'une seule chose à dire. Je me suis accusé parce que je n'en pouvais plus. Je ne savais plus ce que je faisais. Les arguments ont du mal à convaincre.
Je n'ai pas le souvenir que dans cette cour d'assises, on a voulu s'acharner sur Christian Marletta. J'ai le sentiment que on a eu du mal à croire les quelques versions successives et postérieures aux aveux, qui se sont succédées, mais qui ont toutes donné des versions différentes. Et des versions qui étaient extrêmement difficiles à cerner. Lorsque vous trouvez un cadavre dans le couloir de votre immeuble, même si c'est une petite fille et dont vous êtes l'éducateur, vous ne la découpez pas en morceaux.
Des aveux réitérés, ça paraît invraisemblable. Chacun se dit, mais moi, ils peuvent me garder 50 jours en garde à vue dans une geôle au pain sec, je n'avouerai jamais la mort d'un enfant. C'est ce que tout le monde pense. Et pourtant, on a vu des gens avouer des choses moins terribles que ça, ou des choses aussi terribles. Mais là, c'était un aveu réitéré. Et Louis Bartholoméi pouvait dire à juste titre, cet homme n'a pas été frappé. À partir de là, il faut des concours de circonstances exceptionnels. Il faut, à partir de cet instant-là, prouver l'innocence. Il faut prouver l'innocence.
Prouver l'innocence, c'est mission impossible. Mais on peut au moins plaider le bénéfice du doute, se disent les avocats, en s'interrogeant par exemple sur la fragilité du mobile avancé par l'accusation, le viol de la fillette.
L'expert à la barre a eu l'honnêteté de dire que la preuve totale et absolue d'un forçage par sodomie, on ne pouvait pas le dire comme ça, que scientifiquement, ce n'était pas exact. Si bien que les magistrats proches du dossier, en réfléchissant hors dossier, et puis des journalistes, ont pu penser à un moment que Marletta serait acquitté pour le viol. Ça paraissait difficile parce que Marletta acquitté pour le viol, on n'avait plus de mobile.
Mais un témoignage pèse lourd. Celui de Chantal, la sœur jumelle de Christelle. La fillette est désormais une adolescente de 15 ans. Pour son audition, le président ordonne le huis clos.
Chantal Mancourt, vous témoignez au procès en assises de Christian Marletta pour l'assassinat de votre sœur. C'est un procès à huis clos.
Oui.
Vous revoyez Christian Marletta, il est là dans le box.
Oui.
Comment ça se passe, ce face-à-face avec lui?
Oh là là, beaucoup d'émotions. Beaucoup de peur, beaucoup de haine. Et des questions qui restent sans réponse toujours.
Vous lui reparlez des attouchements au moment de votre témoignage?
Oui.
Comment il réagit?
Il réagit pas du tout. Les autres qui sont dans la salle sont pas contents, mais lui, il réagit pas, il est froid.
Et à un moment, donc, vous vous adressez à lui, directement, les yeux dans les yeux?
Oui, je lui demande pourquoi il a fait ça à Christelle, pourquoi il l'a tué, et c'est là qu'il me dit « c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe ». Donc j'ai bien compris que c'était lui qui l'avait tué.
Elle est étonnante cette phrase, « c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe ».
Voilà.
Pour vous, c'est quoi? C'est un demi-aveu?
Oui, parce que après les attouchements, il était encore mon éducateur et il m'a dit « ce que tu m'as fait, tu vas me payer ». Mais à l'époque, je pensais pas que c'était... Je pensais qu'il m'aurait puni comme d'habitude de dessert ou qu'il m'aurait tapé pour un oui, pour un non. Et après, quand Christelle elle a disparu, c'est là que je me suis dit. Et si c'était vrai?
S'il avait tué Christelle pour vous faire du mal?
Oui, pour se venger. Parce qu'après, il y a eu une mauvaise réputation. Les parents des enfants, ils les ont enlevés. Et puis les enfants, ils n'avaient plus confiance en lui non plus. Ils avaient un autre regard. Donc je savais qu'il me le ferait payer cher.
Le vendredi 15 mars 1985, l'avocat général requiert pendant 3 heures. Personne n'est étonné de l'entendre demander la réclusion criminelle à perpétuité. Avant que la cour ne se retire, Marletta déclare « Je n'ai pas commis ce crime, je peux le jurer sur ce que j'ai de plus cher, mon fils. » Il est 23 heures quand tombe le verdict. La prison à vie pour Christian Marletta.
Il se contentait de hocher la tête en disant « ce n'est pas moi ».
Prostré, je pense qu'il était prêt. Il a dû regarder une dernière fois les gens qui croyaient en lui et qui l'ont soutenu. Il a regardé son père, il nous a serré les mains, il nous a dit merci.
En 1985, il n'y a pas d'appel possible pour les condamnations en assises. Quand il quitte le box des accusés, Christian Marletta sait qu'il n'a qu'un seul recours. La cassation. Mais quelques mois plus tard, la Cour de cassation rejette son pourvoi.
Quelle est votre réaction, Chantal, au moment du verdict? Il est condamné.
Il est condamné. Je suis contente qu'il est condamné, mais je suis effondrée. Mon avocat me dit qu'il a pris la perpète et il sortira plus de prison. Oui, je suis très contente, mais en même temps, j'aurais préféré même à la limite qu'il n'aille pas en prison et que ça soit là, quoi. Parce que ce qui va en prison, c'est bien beau, mais il est toujours vivant et moi, j'ai plus Christelle.
Vous pensez que c'est plus dur parce que c'était votre jumelle encore?
Oui. Il y a une partie de mon cœur qui est mort. Hein. Elle était tout pour moi.
Maître Dreyfus-Schmidt, vous êtes devenue la nouvelle avocate de Christian Marletta. D'abord, vous avez obtenu sa libération en 2006, après 24 années de prison. C'était difficile?
Presque 25 années de détention, 7 demandes de libération conditionnelle. Il faut savoir que les condamnés à perpétuité, en règle générale, effectuent entre 18 et 20 ans de détention. Pour Marletta, le sort, là aussi, a été rude.
Parce qu'il n'a pas avoué?
Parce qu'il n'a pas avoué et parce que systématiquement, il demandait un recours en révision et il clamait son innocence.
Pour obtenir une révision en droit français, il faut des faits nouveaux qui n'étaient pas au dossier lors du procès. Est-ce que vous avez des pistes ou des faits nouveaux?
Il est peut-être un peu prématuré aujourd'hui de vous dire les éléments nouveaux proprement dit que nous exploiterons, mais en tout cas, le dossier recèle un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir être utilisés et réutilisés avec une autre façon d'envisager les choses.
Si on reprend ce qui a pesé lourd quand même hein, dans son procès, ses aveux, la désignation qu'il a faite du lieu où on a retrouvé le tronc de la petite fille de manière très précise, alors qu'il n'était pas censé savoir où on avait retrouvé ce corps, comment est-ce que vous pouvez contrer ces arguments de poids?
Il y a un élément déterminant dans cette affaire, c'est que au moment où les policiers s'aperçoivent qu'ils n'ont rien, ils vont retourner au foyer, voir le directeur de l'époque et dire on reprend à zéro l'enquête, on va fouiller l'établissement, ce qu'ils n'ont pas fait depuis le départ, et on va en réentendre tout le monde. Et là, il se passe une chose extrêmement étonnante, c'est qu'à partir de ce moment-là, spontanément, quelques heures après, le directeur du foyer ira voir la police et dira « j'ai des révélations à vous faire ». Et il dira quoi ? On a discuté avec les éducateurs. On s'est souvenu que Marletta est venue le jour de la disparition de l'enfant. Et il dira même, il appuiera son audition sur un mensonge, « Marletta a quitté Boisfleury parce qu'il était accusé par la petite Chantal Bancourt, sœur jumelle de Christelle, d'avoir pratiqué des attouchements sexuels sur elle. » Il sait que c'est faux. Christian Marletta a démissionné pour d'autres raisons, parce qu'il avait besoin d'aménager ses horaires de travail par rapport à la naissance de son enfant.
Sur les aveux, qu'est-ce que vous avez à dire ?
Ces aveux, si on veut bien les analyser, comportent un certain nombre d'incohérences et ne sont pas, contrairement à ce qui a été dit dès le départ dans ce dossier, des aveux circonstanciés, mais des aveux avec des éléments que les enquêteurs connaissaient parfaitement avant que Christian Marletta passe aux aveux.
D'une certaine manière, la réalité recouvre la totalité de ces aveux ?
Pas du tout, parce que justement, ces aveux auraient dû être vérifiés et que les vérifications, malheureusement, n'ont pas été faites parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Vous imaginez que dans cette affaire, il n'y a aucune reconstitution sur les lieux de l'enlèvement de l'enfant, aucun minutage de l'emploi du temps de Christian Marletta par rapport aux déclarations de tous les protagonistes, aucune expertise, aucune contre-expertise, tous les actes demandés par la défense sont systématiquement rejetés, Christian Marletta n'est entendu que deux fois par le juge d'instruction, et on lui notifie 5 mois après son inculpation des faits de viol.
Non, ce qui pèse lourd, c'est sa désignation des lieux où le premier sac poubelle a été déposé. De manière très précise, il y va directement, alors qu'il n'est pas censé savoir exactement où ça s'est passé. Ça pèse très très lourd.
Tout à fait, mais il y a une explication tout à fait concrète sur cet élément, c'est que Christian Marletta se considère coupable de recel de cadavres. Mais ce n'est pas la même chose que d'un assassinat et d'un dépeçage d'enfants.
Sorti de prison en 2006, Christian Marletta a retrouvé du travail. Il vit avec une nouvelle compagne qui était l'un de ses professeurs en prison. Thank you.